Bonjour à tout le monde et bonne année. Je suis ravi d'être là après 3 semaines d'absence dans un pays pluvieux où il n'a jamais plu pendant 3 semaines. Du soleil tous les jours. Et je ne plaisante pas, je n'exagère pas. Alors, 2 informations avant qu'on lise un texte biblique. Première chose, c'est pendant qu'on chantait un des premiers chants, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. J'étais un peu ému parce que lorsque nous étions dans le nord de la France, responsable d'une église, un frère a proposé ce chant tous les dimanches. Un frère qui avait des soucis de santé mentale à cause d'abus d'alcool et de drogue et d'une méningite mal soignée. Et donc, il avait des soucis de santé mentale. Il aimait le Seigneur, il lisait la parole tous les jours, il priait tous les jours. Et tous les dimanches, il proposait ce chant. Alors, quand on chante le même chant tous les dimanches, après 2 mois, ça ne vient pas forcément du cœur. Donc, les anciens ont décidé de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait avant ni après. On a décidé d'interdire ce chant. En expliquant aux frères concernés le pourquoi et le comment, et bien sûr, il a accepté. Et après quelques mois, on a recommencé à chanter, mais pas toutes les semaines. Alors, j'étais ému parce que j'ai appris il y a quelques jours que ce frère est auprès du Seigneur, dans la maison du Seigneur, dans les parvis du Seigneur. Et pour nos enfants qui ont beaucoup aimé cet homme comme un tonton, et on était ravis de savoir qu'il est au repos. Il est avec le Seigneur. Première information. Deuxième information, plusieurs ont demandé de nouvelles de mon épouse Brigitte. Donc cet après-midi, on devait monter tous les deux en voiture chez notre fille dans l'Essonne parce qu'elle partait la semaine avec son travail et on allait aider le papa et les enfants. Et par rapport à la nounou et tout ça. Mais malheureusement, notre beau-fils a eu un accident de voiture jeudi. La voiture est complètement cassée. Lui, il n'est pas cassé, mais il était très, très choqué. Donc, à midi, vendredi, notre fille a téléphoné. « Maman, est-ce que tu peux monter plus tôt ? Et papa peut prendre le train ou venir à pied dimanche. » Donc, à 13h, elle est partie en voiture. Donc, c'est pour ça qu'elle est absente ce matin. Donc, on a eu un moment de chaud, on va dire. Et là, ce matin, ils sont tous au culte, à Paliso, et ça va beaucoup mieux. En tout cas. Donc, je dis ça en public comme ça, c'est vite que je le dise à chaque personne à la fin du culte. Bien, je vous invite à trouver Hébreux, chapitre 13. Nous arrivons donc à la fin de notre série de prédications dans l'Épître aux Hébreux. Et nous allons lire tout ce chapitre ce matin. Mais avant la lecture, je dois vous confesser quelque chose. Il peut arriver à un prédicateur, à un enseignant de la Bible, d'être frustré lors d'une prédication ou d'être frustré après sa prédication. Je vous donne quelques raisons qui sont tout à fait terre à terre. Lorsque un prédicateur constate que la moitié des personnes qui sont là sont en train de dormir, c'est un peu frustrant. Quand ils constatent que l'autre moitié est en train de scroller sur leur, pas sur leur Bible, mais sur le téléphone, c'est un peu frustrant. Quand ils se rendent compte qu'il a tant de minutes pour prêcher, et il y a tant de choses à dire, c'est un peu frustrant. Alors, je me suis dit que, en préparant ce message, j'étais un peu frustré. Je dirais une frustration saine et sainte. Frustré parce qu'il n'y a que 25 versets. J'ai, on va dire, une demi-heure. Mais il y a tellement de choses à dire sur ces 25 versets. Il y a 15 thèmes abordés et chaque thème mérite une prédication. Donc, on pourrait faire 15 prédications de 30 minutes sur tout ce chapitre, ou alors une prédication de 30 minutes sur 2 versets de ce chapitre. Donc vous devinez quel choix j'ai fait. Cela dit, nous allons tout lire, mais on va se concentrer sur 2 versets. Donc pour nous aider à bien comprendre et assimiler ce que dit ce texte, J'avais affiché les thèmes verset par verset, ou parfois deux, trois versets à la fois. Donc, Hébreux chapitre 13. Verset 1. Il s'agit de l'amour fraternel. Persévérez dans l'amour fraternel. Verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en exerçant, certains ont, sans le savoir, logé des anges. Verset 3. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez avec eux, et de ceux qui sont maltraités comme si vous étiez dans leur corps. Là, il s'agit des prisonniers en général, on peut dire, mais aussi de ceux qui sont en prison pour leur foi. Verset 4, le mariage. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure de ceux qui livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère. Toujours verset 5, car Dieu les jugera. Pardon, verset 4. Maintenant, verset 5. Que votre, donc, l'amour de l'argent, le contentement et la cupidité. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, et verset 5 et 6, la présence de Dieu, 24 heures sur 24. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Verset 7, le respect des anciens dans notre Église. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quel est le bilan de leur vie et imitez leur foi. Verset 8, l'identité de Jésus. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Verset 9, le danger des fausses doctrines. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines étrangères. Il est bon, en effet, que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont été d'aucun profit pour ceux qui s'en sont fait une règle. Les régimes alimentaires. Autrement dit, il ne faut pas en faire tout un plat. Verset suivant, verset 10, 11, 12, la mort expiatoire de Jésus. Nous avons un autel dont ceux qui accomplissent le service du tabernacle n'ont pas le droit de tirer leur nourriture. En ce qui concerne les animaux dont le sang est apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour l'expiation du péché, leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. Voilà pourquoi Jésus aussi, afin de procurer la sainteté au peuple au moyen de son propre sang, a souffert à l'extérieur du camp. Verset 13, l'humilité chrétienne. Sortons donc pour aller à lui à l'extérieur du camp, en supportant d'être humiliés comme lui. Verset 14, le ciel nous attend. En effet, ici-bas, nous n'avons pas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. La véritable louange à Jésus, verset 15. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Verset 16. L'importance de faire du bien. Et n'oubliez pas de faire le bien, de vous entraider, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Verset 17, de nouveau, le respect pour les anciens. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur votre âme en hommes qui devront rendre des comptes. Ils pourront ainsi le faire avec joie et non en soupirant. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Verset 19, 18 et 19, la prière. Priez pour nous. Nous sommes en effet convaincus d'avoir une bonne conscience puisque nous voulons bien nous conduire en toutes circonstances. Je vous invite plus particulièrement à prier pour que Dieu vous soit rendu plus tôt. Nous sautons au verset 22. Lire, écouter, aimer et obéir à la parole de Dieu. Verset 22. Je vous invite, frères et sœurs, à faire bon accueil à ces paroles d'encouragement, car je vous ai écrit brièvement. 13 chapitres, n'est pas très bref, mais il dit, je vous ai écrit brièvement. Versets 23 à 25. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient aussitôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs ainsi que tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. On va lire maintenant les deux versets que je n'ai pas lus. Les versets 20 et 21. Et dans ces deux versets, il y a deux choses. Premièrement, une déclaration. Deuxièmement, une demande. Déclaration, verset 20, demande, verset 2. Verset 20. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. La demande. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. À qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Une déclaration et une demande. Rien de trop compliqué. Verset 20, la déclaration se décline en quatre parties, en quatre phrases. Première partie, Dieu est le Dieu de la paix. Dieu est le Dieu de la paix. La source de notre paix. Le fournisseur de notre paix. Ce n'est pas le seul endroit dans la Bible où nous lisons que Dieu est le Dieu de la paix. À cinq reprises, nous lisons qu'il est le Dieu de la paix. Romains 15, Romains 16, Philippiens 4, 2 Corinthiens 13 et ici dans Hébreux 13. Dieu est le Dieu de la paix. Et en 2026, comme en 2025, comme en 2024, comme en 2023, comme chaque année, nous aurons besoin de la paix de Dieu cette année. En tant qu'individu, couple, famille, enfant, jeune, église, Dieu est le Dieu de la paix. Il nous invite à nous adresser à lui quand la paix s'en va, quand la paix manque, quand on est troublé, quand on est déstabilisé. Adressons-nous au Dieu de la paix. Deuxième déclaration, Jésus est ressuscité. Je vous ai dit, il n'y a rien de compliqué. Dieu l'a ramené de la mort à la vie. Jésus dit lui-même qu'il allait revenir à la vie. Et Jésus est ressuscité, le tombeau est vide. Jésus a fait de nombreuses rencontres avec des personnes, certaines qui ne croyaient pas en lui, après sa résurrection, et ils sont devenus croyants, comme plusieurs membres de sa propre famille, ses frères et sœurs, en tout cas, quelques frères. Et puis, bien sûr, des témoins l'ont vu monter au ciel le jeudi de l'Ascension. Le tombeau est vide. Jésus est ressuscité. Et aucun chef religieux ne peut dire la même chose. Numéro 3, Jésus est le grand berger des brebis. Dans l'Ancien Testament, il est souvent question de Dieu le Père comme berger. C'est un concept qu'on trouve dans plusieurs livres, les psaumes, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée et d'autres. Et dans la Nouvelle Testament, bien sûr, Jésus aussi se décrit et il est décrit comme étant un berger. Il y a trois adjectifs qui sont employés pour décrire Jésus comme berger. Jean 10, verset 11, Jésus dit, « Je suis le bon berger. » Et il parle de sa mort. Le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ici, Hébreux 13, Jésus est appelé le grand berger. Pas seulement bon, mes gants. Et il est question ensuite de l'œuvre que Jésus va accomplir dans le cœur de chaque chrétien. Et la troisième référence, c'est dans 1 Pierre 5. Jésus, selon Pierre, est appelé le souverain berger. Pas seulement bon, pas seulement grand, mais souverain. Le roi de tous les bergers, le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs. Et Pierre ensuite parle du retour de Jésus. Le souverain berger qui va revenir chercher ses brebis. Alors, est-ce que nous faisons partie de ces brebis? Eric tout à l'heure faisait allusion au retour de Jésus. Il y a un mouvement aux États-Unis aujourd'hui, suivi par je ne sais pas combien de chrétiens, mais il y a beaucoup de mouvements là-bas, qui prient et qui disent que Jésus va revenir avant 2027. Ne croyons pas à ces mensonges. Un autre mouvement existe, surtout parmi les catholiques, qui disent que Jésus va revenir sans doute en 2033, exactement 2000 ans après sa naissance. Mais bien sûr, on sait que Jésus n'est pas né il y a 2000 ans, enfin 2033 ans. Mais il y a des mouvements qui existent, mais attachons-nous à la parole de Dieu. Personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Jésus, le bon berger, le grand berger et le souverain berger. Et en tant que grand berger, selon ce texte, Jésus va agir dans notre cœur pour nous transformer, pour qu'on soit capable de faire de bonnes œuvres. Et bien sûr, il a du boulot. Il a du pain sur la planche pour transformer notre cœur, pour transformer notre caractère, pour qu'on puisse devenir de plus en plus semblable à la beauté du caractère de Jésus. Quatrième aspect de cette déclaration, la nouvelle alliance a été scellée par la mort et par le sang de Jésus. La mort et plus précisément par le sang de Jésus. Encore, tout comme le thème du berger, le thème des alliances se trouve depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, depuis l'alliance avec Adam, avec Noé, avec Abraham, etc. Il y a des alliances dans l'Ancien Testament. Et bien sûr, si nous sommes chrétiens, c'est grâce à la nouvelle alliance. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans la chambre haute lors du dernier repas. Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance, scellée par son sang. Matthieu 26, Luc 22. Donc voilà, quatre aspects de cette déclaration. Dieu est le Dieu de la paix, Jésus est ressuscité, Jésus est le berger, le grand, le bon, le souverain berger, et une nouvelle alliance a été signée, scellée par la mort de Jésus. Mais nous allons regarder maintenant de plus près la demande de cet auteur aux Hébreux. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Et appliquons ce qu'ils demandent à Dieu pour eux, à notre propre vie. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, mais comment est-ce que je dois vivre aujourd'hui et dans les jours qui viennent? Premier aspect de sa demande, que Dieu nous rende capables de toute œuvre bonne. Que Dieu nous rende capables de faire le bien. Mais David, c'est l'ABC de la vie du chrétien, de faire du bien. Normalement, oui. Mais c'est tellement plus facile de faire du mal que de faire du bien. C'est tellement plus facile de dire du mal que de dire du bien. C'est pourquoi deux fois ici dans ce chapitre, il est question de faire le bien. Faire du bien autour de nous. Faire de bonnes œuvres ou des œuvres bonnes. Cette phrase, des bonnes œuvres, des œuvres bonnes, se trouve une trentaine de fois dans le Nouveau Testament. La première fois, c'est dans Matthieu 5, 16. La dernière fois, c'est dans 1 Pierre 2, verset 12. Et en lisant ces textes, on se rend compte que si le chrétien fait du bien, eh bien, il y a un objectif. Et cet objectif est double. D'abord, pour que les gens soient attirés à Christ, pour le salut, et ensuite, que Dieu soit glorifié. pas que nous soyons glorifiés ou exaltés ou mis sur un piédestal. Non. Mais si nous faisons du bien, ça peut parler à nos contemporains. Et ça peut les aider à se poser des questions. Mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu parles comme ça? En bien, bien sûr. Or, si on fait le mal, ils peuvent nous poser les mêmes questions, de façon négative. Mais c'est pour le salut des âmes, pour que Dieu soit glorifié. Autrement dit, que des inconvertis soient interpellés, que des inconvertis voient la réalité de notre foi. Notre foi peut être visible ou invisible. Et que des inconvertis se tournent vers le Seigneur. Est-ce que vous avez l'habitude de faire du bien? Même si des gens vous font du mal, là aussi, c'est compliqué. On me fait du mal et Dieu me dit, mais fais du bien en retour. J'ai envie de faire une paire de claques, Seigneur. Faites une paire de claques et puis faites du bien après. Non, oubliez les claques. Faites-vous une paire de claques. Et demandez au Seigneur de vous aider à aimer. Aimez vos ennemis. Que Dieu nous rende capables de vivre comme ça. En nous-mêmes, il est impossible. On compte sur Dieu, le mot impossible devient possible. Mais on doit compter sur Dieu. C'est pourquoi l'auteur dit que Dieu vous rende capable. Deuxièmement, que Dieu agisse en nous pour accomplir sa volonté, afin que nous fassions ce qui lui est agréable. C'est un peu, c'est très lié à cette première demande. Que Dieu nous rende capables, ici, c'est que Dieu agisse en nous. Rappelez-vous ce que Jésus a dit dans la chambre haute aussi. Jean 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien. Notre orgueil prend un coup quand on médite ce texte. Aucun mot compliqué, mais sans moi, Jésus dit, vous ne pouvez rien, ou vous n'êtes rien. Heureusement que Paul, l'apôtre, dit, je puis tout dans la communion de celui qui est la source de ma force. Ou dans une autre version, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc d'un côté, je ne peux rien, mais en comptant sur Dieu, je peux faire ce qu'il me demande de faire. C'est David Livingstone, l'explorateur, le médecin, le géographe et le missionnaire écossais qui est mort il y a 200 ans. Il avait l'habitude de dire que dans l'œuvre de Dieu, il y a trois étapes. C'est impossible, c'est difficile, c'est fait. Et quand Dieu nous demande de faire quelque chose, oui, c'est impossible. C'est difficile. Il faut que c'est fait, on peut dire, Seigneur, merci, c'est fait. C'est trois phrases que j'utilise quand ma femme me demande de faire du bricolage à la maison. C'est impossible. Planter un clou, mais non, je ne peux pas. C'est difficile. Et parfois, je peux dire, le clou est toujours là, après 24 heures. Dieu seul peut nous aider à faire ce que nous devons faire. Si l'Éternel ne bâtit la maison, le psaume 127, verset 1, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. On peut faire des choses, mais ça ne va pas durer. On doit compter sur le Seigneur. Et la troisième chose, la troisième demande, que Dieu, que Jésus seul, soit honoré et glorifié au travers de notre vie. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous ne faisons pas des choses pour qu'on nous applaudisse, pour qu'on nous glorifie. On fait des choses parce qu'on veut que les gens soient attirés à Jésus. C'est lui qui ne change pas, qui est pareil hier, aujourd'hui et demain. Que des gens élèvent et disent « Gloire à ton nom, Jésus ». Mon rocher, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Jésus. Donc, on peut dire que ces trois demandes sont intimement liées. Parce que Dieu nous appelle à faire le bien. Il nous montre ce que nous devons faire. Il nous donne la force pour faire ce que nous devons faire. Et si nous faisons ce que nous devons faire, en accomplissant sa volonté, Jésus sera glorifié et exalté dans notre vie et dans le bien que nous faisons. Je vais répéter ça, parce que j'aime bien. Ces trois phrases sont intimement liées. Dieu nous appelle à faire le bien. Il nous montre ce que nous devons faire. Il nous donne la force pour faire ce que nous devons faire. Et si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, on va accomplir sa volonté et Jésus sera exalté et glorifié dans notre vie par le bien que nous faisons. Les amis, Dieu nous appelle aujourd'hui et demain et le jour à venir à faire le bien afin que d'autres soient attirés à Jésus et que nous puissions obéir à ce qu'il nous demande en comptant sur lui. Que ce soit une chose énorme ou un petit truc, on a besoin de compter sur le Seigneur. Pour conclure, je vais revenir sur le Dieu de la paix. Le Dieu de la paix. On est encouragé à s'adresser au Dieu de la paix quand la paix s'en va. Le 23 décembre, donc il y a 2 semaines, dans l'après-midi, mon fils m'appelle. Nous, on était en Écosse. Il était à Villefranche, chez les beaux-parents, 1500 kilomètres. Il m'appelle, j'étais dans la voiture avec notre fille Fiona et Brigitte. Il me dit, « Papa, est-ce que tu es seul ?» Je dis, « Non. Est-ce que tu peux te mettre quelque part où tu es tout seul ?» Ce n'est pas la première fois qu'un enfant m'appelle et me dit ça, avec Brigitte à côté. Donc, je sors de la voiture, je vais un peu plus loin, et il dit, « Papa, écoute, on est aux urgences à Villefranche. » Il explique que le fils de 8 ans, en jouant, est tombé, se cogne la tête, a perdu connaissance, et quand il s'est réveillé avec des hallucinations, il disait n'importe quoi, il ne voyait plus rien. « Papa, on attend aux urgences, prie. » Ok. Bon, on discute, on prie, je rentre dans la voiture. Bien sûr, Brigitte et Fiona ne sont pas bêtes. C'était qui? Et pourquoi tu es sorti? Donc, j'explique. Et on a prié dans la voiture. On s'est adressé au Dieu de la paix. Parce qu'on ne veut pas la paix. Et quand tu entends ton fils qui a un certain âge, qui est père de famille, qui est vraiment perdu, tu t'en comptes autour de Seigneur. On prie le Seigneur. Ils ont attendu des heures déjà pour être vus avec des urgences. Et puis le médecin dit, ils font un scan, une IRM dans la tête pour vérifier qu'il n'y a pas de saignement et pas de fracture. Et puisqu'il était très agité, une piqûre, il s'est endormi, pour le calmer en tout cas, dans le tunnel, vous savez peut-être ce que c'est une IRM. Et puis après, donc, après une longue attente, tard le soir, tout était bon. Pas de saignement, pas de fracture. Et ils ont dit, il faut le ramener à la maison parce qu'on a 30 gamins dans la salle d'attente avec bronchiolite, grippe et tout le reste. Donc, on ne peut pas garder votre fils à l'hôpital. Il rentre toutes les heures. Ils l'ont réveillé dans la nuit pour voir si tout allait bien. Donc, il y a petit, il parlait mieux et puis il ne voyait plus d'hallucinations. Et sa vue est revenue. Il fallait se reposer pendant 2 jours. Et un gamin de 8 ans qui bouge, qui court comme un lapin du matin au soir, sans courir pendant 2 jours, c'était aussi miraculeux et impossible. Mais avec le Seigneur, tout est possible. Dieu a donné sa paix à notre fils, à sa femme, qui allaitait leur bébé à l'hôpital, aux urgences. Vous voyez le tableau, il faisait je ne sais pas quelle température. Mais Dieu est intervenu et tout le monde a pu bien dormir la nuit du 23 au 24, du 24 au 25, etc. Quand on est troublé, adressons-nous au Dieu de la paix et au Dieu Tout-Puissant. Parce qu'on comptait sur la puissance de Dieu pour agir et sur sa paix pour envahir notre cœur. Parce que quand la peur envahit, la paix s'en va. Quand la paix envahit, la peur s'en va. Donc, avec ces versets en tête, concluons que le Dieu de la paix nous accompagne. Que le Dieu de la paix garde notre cœur en paix. Que le Dieu de la paix nous équipe pour le servir. Et la Bible nous dit que le Dieu de la paix, Romains 16, 20, un jour il va écraser Satan et nous accorde victoire sur victoire pour l'éternité. Prions. Seigneur notre Dieu, merci car tu es le Dieu de la paix. Tu es aussi appelé le Dieu du réconfort. Tu es aussi appelé le Dieu de l'espérance. Tu es le Dieu tout-puissant. Mais nous voulons venir vers toi en ce début d'année pour nous adresser au Dieu de la paix. Seigneur, tu vois le cœur de chaque personne ici présente et les amis aussi avec le culte de jeunesse. Tu vois ceux qui sont dans la paix. Tu vois ceux qui sont dans la peine. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à nous adresser à toi et que tu puisses venir nous réconforter, nous fortifier, nous apaiser et nous rencontrer là où on a besoin d'être rencontré. Merci car tu es un Dieu personnel. Tu connais chacune de tes brebis de façon intime et personnelle. Et nous te louons pour cela. Et nous voulons te prier en ce début d'année de nous aider à rester dans ta paix, de nous aider à faire le bien lorsque l'occasion se présente. Et de nous aider aussi à laisser Jésus agir dans notre cœur, pour transformer notre cœur, pour transformer notre caractère, afin que lui seul soit élevé et glorifié. Nous te confions ces sujets de prière au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen.